Mais je vais inviter monsieur Pierre Héran peut-être à monter sur la scène pour faire la conclusion de cette journée, donc au nom de la Fondation Bâtiment Énergie et en votre nom.
Très bien, merci. Donc effectivement, j'ai pris des notes toute la journée pour préparer cette conclusion. Donc c'est beaucoup de points notés et je vais essayer de tirer en quelques minutes les éléments qui me semblent importants de mon point de vue. Alors c'est mon point de vue sera double, c'est celui d'une part de la Fondation Bâtiment Énergie qui est évidemment a soutenu ce projet, mais également du point de vue des enseignements pour l'ADEME, puisque au quotidien donc on travaille sur des problématiques du même type. Alors tout d'abord, je voudrais féliciter la direction d'ADOMA et puis toute l'équipe d'ADOMA pour avoir organisé ce colloque sur un thème bien spécifique, évidemment, leur parc patrimonial. Donc c'est un parc très particulier. Je crois que c'était un bon exercice aujourd'hui pour pouvoir discuter tous ensemble, à la fois de ce qu'il faut conduire en matière de travaux de réhabilitation énergétique et puis l'aspect qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, moi, c'est toute l'étude sociologique qui a été conduite parallèlement. Donc je vais essayer de rapidement reprendre tous ces points-là. D'une part, donc, je reprends là ma casquette là, de directeur de la Fondation Bâtiment Énergie. Donc là, on peut, nous, du point de vue de la Fondation, que se féliciter de la confirmation de l'exemplarité de la démarche qui a été conduite. La Fondation, je l'ai dit ce matin, cherche à travailler avec des consortiums qui soient le plus large et le plus complet possible. Donc là, c'est l'illustration parfaite d'un consortium parfaitement constitué, énergéticien, expert en développement durable, sociologue, architecte, universitaire, donc on pourrait, je crois, pas faire beaucoup mieux. Et puis, bien évidemment, un maître d'ouvrage qui a un parc de bâtiments très, très conséquent, 76 unités de logement, si j'ai bien retenu les chiffres. Donc, 76 000, pardon, unités de logement, si j'ai bien retenu les chiffres, on est vraiment sur des niveaux considérables. Et puis, la deuxième partie, qui est très, très importante aussi pour la Fondation Bâtiment Énergie, c'est comment assurer, en fait, la diffusion de la démarche. C'est bien de faire des études, mais il faut pouvoir la diffuser le plus largement possible. Donc, on a la confirmation que tout ceci va se poursuivre sur le parc d'ADOMA. Donc, il y a un exercice très long qui est conduit, puisqu'on a, effectivement, des chiffres très, très importants sur 10 ans. J'ai noté 1,3 milliard d'euros qui sont investis sur 10 ans, à la fois pour la maintenance et la réhabilitation du parc. Donc c'est vraiment, vraiment des chiffres très, très élevés. Et puis également, l'appropriation, je pense, de l'ensemble de ces travaux, notamment par l'UNAFO et par ses 83 adhérents, donc qui est une manière aussi de démultiplier. Et là, je crois qu'on est parfaitement dans l'optique de ce qui était recherché dès le démarrage de cette étude. Alors, le troisième aspect que j'ai noté, c'est... Bien évidemment, la confirmation qu'il y a deux voies qui sont à traiter en parallèle pour atteindre les fameux moins 38% en 2020, voire le facteur 4 en 2050, c'est d'une part de travailler sur le bâtiment. Donc c'est tout ce qu'on connaît depuis très très longtemps sur les méthodes de réhabilitation énergétique, les audits énergétiques à conduire, toutes les simulations thermiques, dynamiques qu'il faut réaliser. C'est la voie classique d'étude sur un parc, on commence toujours par cela. Mais ce n'est pas puisqu'on travaille depuis 20 ans ou 30 ans dessus qu'on a résolu pour autant tous les problèmes. Et là, ce qu'on a bien constaté, c'est qu'on avait encore à travailler, comme d'ailleurs sur tous les parcs, sur la façon de conduire des réhabilitations en plusieurs phases. On sait qu'on n'y arrivera pas en une seule phase. On doit en réintervenir sur les bâtiments. On n'a pas non plus des typologies qui soient applicables à tous les types de bâtiments, quels que soient les exercices qui sont conduits. Donc ça, c'est bien un problème qui est posé à tous les responsables de parcs. On a la problématique de l'intervention en site occupé. De plus en plus, il faudra arriver à résoudre et à trouver des moyens d'intervenir parce que la réhabilitation, ça se fait en site occupé, c'est bien évident. On a une préoccupation, nous, à l'ADEME, c'est de rechercher, d'essayer d'accompagner des actions de pré-industrialisation. Donc, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, savoir comment on pouvait faire des encadrements de fenêtres, notamment avec des produits qui seraient industrialisés, qui permettraient de raccorder une isolation par l'intérieur sur des fenêtres particulières. Mais il y a bien d'autres types de produits qui seraient à travailler, ou même de méthodologies de réhabilitation qui seraient à travailler sous un angle de réhabilitation. Ça permet de réduire les coûts et puis d'éviter donc des délais de chantier qui sont très importants et puis de réduire aussi les effets des intempéries, lorsqu'il c'est le cas. Il y a le fait de travailler aussi sur un point qu'on va, nous, essayer de faire avancer dans le cadre de l'ADEME, c'est ce qu'on appelle maintenant les réhabilitations à coût compensé, c'est-à-dire rechercher comment, en fait, par le biais de la réhabilitation, on arrive à générer des gains de coûts. Alors, ça peut être des extensions de surface habitable pour des bâtiments de type tertiaire, par exemple, des logements sociaux sur lesquels on commercialise ou on loue de la surface habitable supérieure. Là, dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, mais j'ai bien vu que sur l'opération de Guyancourt, il y avait des coûts qui étaient induits par le fait qu'en augmentant les tailles de logements, on réduit le nombre d'occupants, donc on réduit forcément les dépenses énergétiques. Et ça permet en partie de compenser des coûts de réhabilitation. Donc ça, c'est des voies qu'il faut rechercher le plus possible, comment effectivement réduire les coûts de la réhabilitation par le biais de bénéfices financiers qui sont parallèles. D'autres types de démarches vont certainement aussi aboutir. Je pense aux isolants minces. Ça fait plus de 15 ans qu'on développe ces types de produits. Je pense qu'on arrive maintenant au bout de la démarche. On aura, d'ici quelques années, des produits qui seront certainement commercialisables et qui permettront peut-être de résoudre ces problèmes d'intervention en isolation par l'intérieur sur des logements de très, très petit volume. Et puis l'autre voie, donc à côté de cette voie de cette voie technique, eh bien il y a l'autre voie qui est le travail sur les comportements. Alors on n'est pas très très fort en France là-dessus et à l'ADEME notamment, on n'a pas beaucoup travaillé, on n'a pas travaillé suffisamment puisque ça nécessiterait des moyens considérables d'aller rechercher quelles sont les analyses à faire sur les comportements, comment est-ce qu'on peut influencer ces comportements, comment est-ce qu'on peut mieux les connaître. Là, ce qui était intéressant dans la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on, le travail a été bien avancé et les deux présentations qui ont été montrées donc, donnent déjà des possibilités d'action ou tout au moins des identifications qui me semblent très, très importantes. On est dans un cas particulier, il faut bien l'avouer, c'est même peut-être un cas un peu choquant où on voit qu'on a des comportements qui sont, alors on a utilisé plusieurs fois le terme de comportement déviant, c'est pas un terme que j'aime beaucoup utiliser, mais on est véritablement sur des comportements un petit peu extrêmes. Je ferai le parallèle avec la précarité énergétique. Dans le cadre de la précarité énergétique, on a des personnes qui ne se chauffent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer, ou qui ne consomment pas d'eau chaude sanitaire parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en consommer. Là, on a aussi des occupants en précarité, globalement en précarité, effectivement, mais qui consomment beaucoup parce qu'ils ne payent pas leur consommation. Donc on doit traiter ces deux types de cas et ça nécessite des approches de type sociologique qui sont quand même très, très, très spécifiques et certainement très, très subtiles à conduire. Alors qu'est-ce qui peut être fait là-dessus? Donc c'est certainement un travail que ADEMA va poursuivre donc pour affiner la connaissance des comportements de ces consommateurs. Il y a le comportement type ADEMA et puis il y a le comportement classique. C'est vrai que 200 litres d'eau par personne et par jour sur la totalité du territoire français, ça ferait des consommations considérables. Et moi, ça me choque complètement puisque c'est un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre depuis 40 ans. On consomme toujours autant d'eau. On a essayé de travailler sur des technologies, mais on sent bien que ce n'est pas ça qui va permettre d'augmenter les consommations d'énergie. Donc, il y a effectivement cet aspect de comportement qui est important. Il faudra trouver des voies. Donc, les voies ont été un petit peu explicitées. Là, la communication, l'adhésion sur des comportements plus vertueux, on sent bien que les effets sont limités. L'incitation et l'intéressement n'ont peut-être pas été tout à fait évoqués, mais je pense que vous y travaillez aussi. Les aspects de récompense peut-être sur des comportements vertueux avec des bons d'achat ou des possibilités de ce type-là, mais ça nécessite effectivement de pouvoir donner des éléments de comparaison, c'est-à-dire qu'est-ce que vous consommez par rapport à une situation type, mais c'est certainement des choses à travailler. Et puis après, il y a certainement des produits techniques de régulation de comportement. Les éléments qui peuvent permettre de couper le chauffage quand on ouvre la fenêtre, tout ce qui est peut-être Presto, je pense que vous avez déjà utilisé tout ceci. La mesure de la température intérieure, vous l'avez mise en place. Les mesures d'hygrométrie, les mesures de qualité de l'air intérieur. Moi, je suis assez effrayé par le fait qu'il peut y avoir beaucoup de surpopulation ou de suroccupation des logements, ce qui conduit quand même à des problèmes de qualité de l'air intérieur qui sont certainement très, très perceptibles et certainement dangereux. Donc on sent bien que là, il y a toute une mécanique et tout un ensemble d'équipements techniques qu'il va falloir que vous continuez à explorer et à travailler. Et puis également, certainement, des voies qui seraient peut-être plus novatives, mais qui posent des problèmes de maintenance, c'est tout ce qui peut être récupération d'énergie, les pompes à chaleur notamment sur eau grise, hein, quand on a des volumes considérables d'eau chaude sanitaire qui partent à l'égout, il est peut-être intéressant de regarder ce qui peut être fait. Donc certainement quelque chose qui nous intéresserait, nous, à l'ADEME, c'est de regarder voilà, toutes ces possibilités de travailler, de tester même avec vous des équipements techniques un peu novateurs ou les mettre en place à grande échelle pour regarder qu'est-ce qui peut être fait en matière de comportement. Je dirais que ces aspects-là donc, nous intéressent. Je l'ai parlé sur l'aspect précarité énergétique, puisque c'est évidemment un gros chantier. Les pouvoirs publics l'ont bien exprimé, notamment le 21 mars dernier. Ça reste un gros chantier. La précarité énergétique va continuer à se poursuivre. Et tout ce qui peut être fait sur votre parc peut aussi conduire à trouver des solutions pour réhabiliter des logements occupés par des ménages en situation de précarité. Puis à l'autre... De l'autre côté de la démarche, je dirais que tout ce que vous pouvez faire peut aussi nous intéresser pour des bâtiments énergie positive, puisque on va chercher dans les bâtiments énergie positive à réduire le plus possible tout ce qui constitue bien les usages importants de l'énergie, tout ce qui constitue des usages notamment affectés d'un coefficient 2,58, les usages électriques, et là, bien tout ce que vous pouvez aussi tester et mettre en œuvre pour réduire les consommations énergétiques peut être intéressant. J'ai noté également un autre chiffre, c'est que vous aviez prévu donc 72 millions d'euros par an en matière de réhabilitation et que vous avez 40 millions d'euros de dépenses énergétiques. Donc voilà, c'est très très important de pouvoir évidemment jouer sur ces 40 millions pour pouvoir augmenter ou tout au moins limiter l'impact des 72 millions qui seront à utiliser chaque année. Donc voilà, j'étais moi ravi d'avoir l'ensemble de ces présentations. C'est très très exemplaire par rapport à tous les projets qui ont été soutenus par la Fondation Bâtiment Énergie, que de rassembler et de tester donc les effets des études qui ont été conduites. J'ai la confirmation que tout ceci va être parfaitement utilisé sur votre patrimoine et donc sur une période de moins de 10 ans, donc c'est remarquable. Et j'ai toute confiance dans le fait que évidemment les solutions seront trouvées. Et je suis évidemment très très intéressé, et nous sommes tous très intéressés, je pense, par les conclusions de l'opération de Marseille, qui sera la première opération qui mettra en œuvre l'ensemble de ce projet. Merci encore de cette organisation. Merci à tous.